Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bonne année tout le monde, bienvenue dans Ça Déraille, le podcast vélo qui revient pour une quatrième année de suite. Très heureux de vous retrouver en 2024, meilleurs voeux à tout le monde, bonne année à tous ceux qui nous suivent pour cette émission aujourd'hui. On vous prépare pas mal de choses pour vous régaler dans cette nouvelle année. Mais pour la première émission de la saison 4, c'est un classique. À quoi s'attendre en 2024, ou plus communément appelé un épisode où à la fin de l'année, on se rend compte qu'on raconte n'importe quoi. Et avec moi, toujours les mêmes, bien sûr, puisqu'il y aura peut-être des petites surprises, des petits nouveaux au fur et à mesure de l'année. Mais en attendant, ils sont tous là, ils sont tous beaux, ils sont tous prêts. Et je vais commencer avec peut-être le plus beau d'entre nous. Et vous savez très bien de qui je parle, mais c'est Jérémy qui est avec nous, qui fait une petite parenthèse entre deux cyclocross.
Et surtout, je tiens à préciser qu'en 2024 encore, je suis le bon élève.
C'est vrai, le seul arrivé à l'heure correctement. Tiens, en parlant de personne à l'heure, Rémi, comment ça se passe? On a couru sous la pluie pour arriver à l'heure, en retard à l'émission.
On a couru sous la pluie pour limiter le retard. Exactement. Bravo. Je ne change pas mes bonnes vieilles habitudes, je serai toujours le mauvais élève au niveau ponctualité.
Attention à ne pas glisser, et on demande à ne pas le faire chez vous. Évidemment, ce sont des professionnels ici qui effectuent ce genre de running sous la pluie. Tiens, en parlant de professionnels du vélo, Théo est avec nous aujourd'hui pour la première de l'année. Non, pas professionnel, je vais peut-être enlever finalement.
Vraiment, non. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je voudrais revenir sur un truc. Tu as sous-entendu qu'on allait perdre nos emplois, du coup?
Oui, alors... concernant votre paye que vous recevez tous les mois de la part de Ça Déraille, ça va être un peu plus compliqué. On va resserrer les budgets, mais vous inquiétez pas. Tu disais quoi, Jérémy?
Les temps sont durs en ce moment.
Oui, tu m'étonnes. Ouais,
avec... Cola coûte cher.
Surtout, cola qui coûte cher, qui sera peut-être parmi nous. Peut-être à un moment ou un autre dans l'année, s'il daigne se lever du canapé, parce qu'il y a trop de cyclocross en ce moment entre Benidorm et tout. Mais bon, ça, c'est pas notre problème. C'est les spaces de Ça Déraille. En attendant, pour ce premier épisode de l'année, vous savez, on va parler des trois points, de nos paris aussi pour cette année, la surprise, la star de l'année, l'espoir, la déception, tout. Alors, c'est là où on se trompe. Ça sera en deuxième partie. En attendant, on va s'occuper des trois points avec... un nouveau jingle pour cette nouvelle année, parce que cette fois-ci, ce n'est plus le départ. On assure le tempo pour commencer.
T'as fait une bonne sortie aujourd'hui. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant.
Alors, pour ceux qui reconnaissent la voix, c'est celle d'Hugo hein, qui avait commenté une étape de Luzardiden remportée par Alain de Samstrong il y a de ça quelques années, striké à de nombreuses reprises sur YouTube, mais c'est bien présent dans sa déraille. Pour commencer, avant nos trois points, les gars, je vous ai fait des petites conclusions hâtives après une semaine de course pour cette année 2024. Vous allez réagir à tout ça. On commence avec la première conclusion hâtive après le Tour Down Under donc, qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors, Isaac Del Toro, il sera meilleur que Tadej Pogacar, ça c'est bon, c'est acté. Qui veut réagir là-dessus?
Ah, non, mais en tout cas, il est parti au moins aussi fort hein, sur sa première World Tour en carrière. Et oui, bah, il est dans la bonne équipe pour progresser et apprendre au contact de Poggi. Ouais.
Théo, c'est bon, c'est Isaac Del Toro sera encore meilleur que Tadej Pogacar. On a trouvé son successeur.
Bon, en tout cas, il est mexicain, donc ça mettra un petit peu de piment dans cette saison, n'est-ce pas?
Ok, alors c'est la première blague de l'année 2024. Est-ce qu'on la valide ou pas? Dans le chat, n'hésitez pas.
On n'est pas encore chaud.
Non, mais j'étais tellement sous le choc de cette conclusion que, si tu veux, je... Bon. Pas grand-chose à dire.
Bon, très bien. Je pense qu'on n'ira pas plus loin là-dessus. Rémi, je vais te faire réagir plutôt sur Van Poppel, qui est le meilleur poisson pilote du monde. C'est fait. On est d'accord, Rémi?
Oui, et j'étais même d'accord déjà l'année dernière, parce qu'il a tellement bien emmené Sam Bennett sur... une victoire à Eschborn Frankfurt que de toute façon pour moi Danny Van Poppel est un génie.
Qui reste
ouais, tu vois ça me plaît beaucoup plus Johan.
Ah bah vas-y, bah parle, prends la parole.
Bah non, et pour le coup en effet Rémi a raison, déjà sur la saison dernière, il était pas avec un sprinter qui était capable de le suivre carrément, il y avait sur 3 sprints sur 4, Van Poppel finalement était meilleur que le sprinter qu'il devait lancer. Donc clairement ça veut dire que il est soit capable d'aller chercher des succès sur des sprints de moindre importance quand il faudra le faire, et en plus, lorsqu'il faudra amener son sprinter, je pense que c'est un des meilleurs du monde, dans le top 3 en tout cas, ça c'est sûr.
C'est vrai qu'il a amené aisément Sam Wellsford, qui est du coup, Jérémy, le nouveau roi du sprint, c'est lui qui va surclasser Philipsen cette année. On l'a vu sur le Tour Down Under en Australie, il bat tout le monde facilement, donc c'est bon, c'est ça aussi, c'est nouvellement acté en 2024.
Je pense qu'à l'horizon 2028, il aura battu le record de Cavendish sur le tour.
Ah, 2028, ça fait quand même pas mal d'étapes à gagner.
Hein. Je suis dans les conneries, avancez là. Non, mais c'est un très très bon coureur et je pense qu'effectivement, il a bien fait de changer d'air et qu'il profite quand même de l'absence de Philipsen, de Coy, de Jakobsen et de tous ceux qu'on va retrouver au sprint. Pour rebondir quand même par rapport à Van Poppel, moi je le considérerais officiellement comme le meilleur poisson pilote du monde, quand on l'aura vu sur le tour faire gagner son sprinter. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est plutôt Mathieu Van Der Poel. Mais top 3, je suis d'accord.
Oui, bon, Van Der Poel qui lançait Philipsen l'année dernière, mais ça, c'est dépassé tout ça. Stephen Williams, donc, qui a remporté le Tour Down Under, c'est lui qui va jouer les classements généraux pour Israel Premier Tech cette année. C'est lui qui va porter sur ses épaules cette équipe. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Maintenant qu'il a gagné une épreuve World Tour, c'est limite, je pense, Pays Basque ou Paris-Nice la prochaine étape, Rémi.
Bon, je pense que là... Il n'y a qu'un pas, hein, de toute façon, entre le Down Under et le Paris-Nice, c'est la suite.
Bah, c'est le successeur de Chris Froome. Hein.
Ah bah voilà, c'est le successeur de Chris Froome, oui. Bah, et Chris Froome qu'on salue, qui fait partie de la famille de Sadera.
Bien sûr.
Et... Non mais plus sérieusement, c'est Stéphane Williams, il a une trajectoire assez intéressante, parce qu'il est passé par la SEG Academy, la Racing, et il a été blessé, il a connu une année difficile. Et il est bien revenu, notamment sur l'Arctic Race l'année dernière. C'est un garçon qui passe bien les bosses, qui est rapide. Il y a beaucoup d'étapes de moyenne montagne, hein, parfois sur des courses par étapes. Et c'est un garçon qui peut aller très vite au sprint également. Sur la haute montagne, clairement, il a des limites, mais c'est un très, très beau coureur.
D'ailleurs, on a une petite... phrase de Fricadel qui revient sur Van Der Poel, qui s'entraîne à mettre des coups d'épaule sur les cyclocross pour préparer les sprints. C'est ça, Jérémy, on est d'accord?
Oui, je crois qu'il a confondu les pylônes électriques avec les piquets de slalom. Et bah, ça passe pas. Mais oui, en tout cas, l'entraînement est bon. Hein, l'entraînement, il est pertinent.
Oui, il a cru qu'il pouvait faire plier le poteau à ce moment-là. Allez, dernière chose, assez rapidement. Julien Alaphilippe va nous faire une belle saison puisqu'il a réussi à accrocher un top 10 sur le Tour Down Under. Jérémy, je te redonne la parole. Enfin, on revoit un Julien Alaphilippe, certes pas dans les tout premiers rôles, mais qui a montré de belles choses sur cette semaine.
Oui, mais belle saison. Tout dépend où on met le curseur d'exigence, hein. Si on s'attend à ce qu'il gagne le Tour des Flandres, bah, je te dis non, il ne fera pas une belle saison. Si on s'attend à ce que Alaphilippe reprenne un peu des couleurs, parvienne à scorer sur des courses plutôt intéressantes, des étapes de Paris-Nice, etc., pourquoi pas? Moi, je trouve encourageant sa reprise au Down Under. Mais ces dernières années, ces derniers mois, le gap s'est tellement creusé avec les top coureurs de classique que je ne m'attends pas cette année à le voir gagner un monument.
Moi, ce qui me fait nuancer un peu, c'est que quand même sur les deux étapes réputées les plus difficiles du Down Under, c'était quand même des finales un peu taillées pour lui, avec une bosse un peu en puncheur. Et en fait, tu vois bien qu'il n'arrive plus à faire les différences qu'il faisait auparavant, parce que tu mets ces étapes-là il y a 4 ans, même si c'est en début de saison, je pense qu'il est capable de faire mieux que ce qu'il fait là la semaine dernière. Donc, à prendre avec des pincettes quand même si c'est positif.
Oui. Aussi, on est en janvier, on est en Australie, il y a le
Oui.
décalage horaire, il fait très chaud.
Ah,
Pour moi, ce
franchement,
tour d'un heure, tu ne peux pas en tirer de conclusion, si ce n'est que ça va à peu près.
bon.
C'est ce qu'on peut dire. C'est pas un énorme à la pipe, mais ça va à peu près.
Ouais, mais
Bon.
pour un coureur de son statut,
Ah, bah, d'accord.
ce qu'il nous avait habitués à faire, les deux arrivées qu'on avait, c'était quand même du tout cuit, quoi. Alors,
Bah,
je suis
évidemment,
d'accord que
évidemment.
c'était pas l'objectif de l'année, hein, je suis d'accord avec toi, mais bon, ça.
Alors, Julien Alaphilippe qui ne fait pas partie des déceptions pour ce Tour Down Under, mais il y en a hein, qui ont un petit peu manqué le coche, hein, Caleb Ewan notamment, mais bon, on commence à s'habituer. Simon Yates, qui n'était pas vraiment aussi dans le coup, on l'attendait un petit peu plus haut. Filippo Ganna, on m'a d'ailleurs interpellé dans le chat sur Filippo Ganna, qui était bien présent en Australie, ne vous inquiétez pas.
Il n'y avait pas de chrono. La
Ah oui,
Filippo
non,
Ganna,
mais.
il aime les chronos.
Ah oui, mais bon, il était là quand même. Après, on va pas se mentir, c'était une start list assez faible, je trouve. J'ai pas la mémoire des autres années, je me rends pas vraiment compte, mais il n'y avait pas vraiment de gros cadors sur cette première course World Tour de l'année. On est parti pour les 3 points maintenant, on va faire ça sérieusement, pas à pas, avec les 3 points de l'année 2024. C'est ce qu'on a envie de voir sur cette nouvelle saison. Et on commence bien dans l'ordre avec Jérémy. C'est celui qui a été le plus appliqué, qui a rempli correctement le conducteur. Donc c'est normal que je lui donne largement la parole. Hein.
Je suis totalement d'accord avec toi. Dans mes 3 points, en fait, c'est presque chaque année les mêmes. Des classiques printanières animées, et j'entends par là Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Mais cette année, je veux croire aussi en un beau Liège-Bastogne-Liège pour plusieurs raisons. Parce que Mathieu Van Der Poel certainement va le viser dans la mesure où il souhaite remporter un quatrième monument différent. Et parce que ces dernières années, on a été privé d'un beau Liège-Bastogne-Liège par les faits de course, par les chutes. Et on n'aura pas systématiquement ce genre de mésaventure. Mon deuxième point, c'est un Tour de France disputé. Alors, c'est un point un peu naïf, parce que j'y crois sans trop y croire. Mais je me dis que si Vingegaard est là, Roglic avec l'Armada annoncée, Evenepoel, Pogacar également, même s'il sortira du Giro, sur le papier, on a de quoi faire. Et mon troisième point, pareil, c'est un rêve qui, à mon avis, sera vain. Mais c'est un peu de concurrence chez les dames pour SD Works.
Ah oui, là, le dernier point est un peu plus compliqué. Rémi, maintenant que je vois ce que tu as mis, tu peux nous donner tes 3 points.
Alors, je tiens à dire que c'est rempli depuis hier. Si vous ne l'avez pas
Ah.
vu, chef, dites rien.
Ah, bravo, bravo. Non mais félicitations, bravo. T'es pas le dernier en tout cas.
moi, comme un peu comme Jérémy, mais même d'une façon plus large, j'espère voir des courses par étapes plus disputées. Parce que on a vraiment trop souvent, depuis même pas que 2023, hein, vraiment ce cyclisme à deux vitesses et même un favori qui se dégage du lot et très peu de courses qui se disputent jusqu'à la fin. On a eu le Giro 2022, mais c'est tout en termes de grands tours. Donc voilà, des courses plus disputées, mais même au-delà des grands tours, même les tours d'une semaine, je veux voir des nouvelles têtes émerger, mais vraiment, donc, quand elles disputer justement ce genre de classement généraux un petit peu et ne pas voir que des Jumbo, des UAE et de temps en temps quelques Ineos. Et j'espère voir une grande victoire de Juliette Labousse. Alors, elle avait gagné sur le Tour d'Italie l'année dernière. Et j'aimerais bien une grande victoire du style soit classement général, soit une classique. Parce que je pense que c'est la suite logique après avoir fait encore un très bon Tour de France l'année dernière et avoir gagné sur le Giro.
Ouais, ça va aussi dans le sens de concurrencer aussi un petit peu la SD Works.
Non, là, bon. C'était en 2022 qu'elle a gagné l'étape.
Eh ben
C'est
bravo.
2022, pardon. Pardon.
Ouais, mais l'année dernière, elle fait deux du général, donc bon.
Bon.
Oui, voilà, c'est pour ça, je me suis
Et
dit,
puis
pardon.
fais gaffe, Rémi Jumbo, c'est fini. Hein.
Ouais,
Oui,
c'est
Il faut travailler un peu.
Lise the bike.
Lise the bike. Oui, bah ouais, hein, surtout, ils vont nous appeler pour nous taper sur les doigts. Tiens, Théo, Alors, qu'est-ce que tu as mis? Bien sûr, préparation depuis des semaines maintenant pour toi, tes 3 points, donc tu peux les donner.
Bien sûr. Oui, moi, j'aimerais avoir un Giro plus animé que l'année dernière, parce que franchement, on s'est quand même bien ennuyé sur ce... Je pense que c'était un des grands tours les plus ennuyants de ces 5 dernières années. Bon, vu le tracé, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus sympa cette année, mais on va croiser les doigts. Personne n'a parlé des Jeux Olympiques, mais on a un tracé qui est vraiment très sympa. Bon, c'est à Paris, c'est vrai que ça fait un peu chauvin. Et malgré tout ce qui se passe autour de ces JO, bah, j'ai quand même envie de voir. En tout cas, il y a tout pour une très belle course de vélo olympique avec des garçons qui en ont fait leur objectif en plus, donc ça peut être sympa. Et puis, j'aimerais bien un maillot de champion de France, Valentin Madouas, qui arrive vraiment en top forme sur les Flandriennes. Il a connu pas mal de déboires sur ces gros objectifs-là. Avec quelques petites maladies, etc. Donc, j'aimerais bien le voir qu'à jouer. Voilà.
Tiens, il y a une petite phrase aussi dans le chat de James Cycling. Je ne sais pas du tout qui ça peut être, qui dit encore une réflexion de français, bizarrement. Peut-être un Belge. Je vous laisse deviner de savoir qui est cette personne bien connue du monde de Saderail. Alors, tu parlais des JO. Moi, j'en ai parlé aussi dans mes 3 points. Je veux une vraie course, surtout sur les Jeux Olympiques. Alors, vous allez tout de suite me tomber dessus, mais c'est juste que sur les dernières années, entre Carapace, entre Vinokourov, en Avermaet, etc., ça a été des courses un peu décousues. J'aimerais bien voir une belle course.
À Rio, c'était sympa quand même.
À Rio, c'était sympa, mais une belle course un peu décousue, un peu moins décousue, un peu, voilà, où il y a un peu plus de choses, où on voit les favoris pouvoir se disputer la victoire, parce qu'on a eu beaucoup de surprises, on va dire, par le passé. J'avais mis donc pour les Jeux Olympiques. Des grands tours moins chiants et plus disputés, ça va aussi avec un petit peu tout ce que vous avez dit, et un Français de retour dans le top 10 mondial, voilà ce que j'aimerais. Je n'ai pas noté le Français, ça peut être beaucoup de personnes, hein. Romain Grégoire, Arnaud Démare, pourquoi pas, David Gaudu, Madouas, pourquoi pas aussi, voilà, donc pas mal de petites choses. On va commencer par ce qui revenait le plus souvent, c'est les grands tours, parce que c'est vrai que l'année dernière on a eu des jaunes et noirs qui ont raflé un petit peu tout sur leur passage. Comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire un grand tour un peu plus disputé? Qu'est-ce qu'on veut voir, Jérémy?
Ne pas connaître le résultat une semaine avant. On veut ne pas voir effectivement 3 coureurs d'une même équipe gagner les 3 grands tours et en plus se permettre le luxe de terminer sur le podium du dernier. Moi, c'est plus orienté sur le Tour de France, dans la mesure où c'est la plus grande épreuve du monde, mais je suis d'accord avec mes collègues, j'aimerais aussi un beau Giro, j'aimerais aussi une belle Vuelta, mais je pense que cette année, le Tour de France sera la vitrine, dans la mesure où tous les cadors s'y sont donnés rendez-vous. Le problème, c'est que Vingegaard, comme d'habitude, va se focaliser à 100% sur la préparation de cet objectif-là, qui sera pas le cas de Pogacar, et moi, je crois pas qu'on puisse faire le doublé Giro-Tour. Maintenant, Evenepoel va venir, alors même si le tracé lui convient pas forcément, même si son équipe est plus faible, et même s'il ne présente pas toutes les garanties pour un grand tour, j'ai quand même envie de le voir à 100% face à Vingegaard, avec une année de plus d'expérience, avec aussi peut-être les souvenirs de cette Vuelta, où il a réussi à repartir de l'avant après son étape cataclysmique sur le Tourmalet. Et puis je me dis que s'il y a une année pour Roglic, les années passent, là il a une vraie équipe à ses côtés, c'est celle-là. Donc j'essaye naïvement d'y croire, mais encore une fois, si tu dois me donner un pronostic aujourd'hui, c'est quand même compliqué de ne pas imaginer Vingegaard gagner.
Rémi, on reste sur le Tour de France, parce que tu parlais de tous les grands tours, c'est ce que disait Jérémy, c'est les grands tours disputés, c'est en fait la Visma qui a de la concurrence, en gros, c'est ça ce que ça veut dire.
Oui, du coup, de facto, vu qu'ils ont gagné les 3 grands tours l'année dernière et au-delà du triplé sur la Vuelta, c'est sûr qu'on attend qu'il y ait une équipe qui vienne vraiment bousculer la Visma. Ça fait des années qu'on dit que l'UAE se renforce et a désormais une équipe pour que Pogacar soit bien entouré. Et puis, force est de constater que finalement, pas tant que ça et que Pogacar est encore un peu seul, même si Yates, l'année dernière, fait podium du Tour, mais à des années-lumière du duo. Donc oui, on attend toujours... 7, dans l'idéal, 6 équipes qui seraient capables de rivaliser. Alors, encore une fois, on attend UAE, on espère un retour un petit peu d'Ineos, même si je ne vois pas qui peut être leader sur ce Tour de France. Évidemment, Labora, que j'attends personnellement, puis on ne sait jamais, un autre coureur d'une autre équipe, peut-être, je ne sais pas, un Carapaz, un Barou d'honneur de Richard Carapaz, même si j'y crois très peu. Moi, j'ai pas de problème à ce que y ait deux, trois équipes qui soient vraiment au-dessus. J'ai vraiment l'envie que ça se batte à coups de seconde et que, bah, comme la deuxième semaine l'année dernière, on s'est régalé sur la deuxième semaine où Pogacar reprenait seconde par seconde. Ça paraissait inéluctable qu'il passe devant Vingegaard, mais l'autre il restait devant et tout. J'ai pas envie que ça finisse avec 8 minutes d'écart, quoi. Mais ça passe aussi évidemment par une Visma qui soit un peu moins souveraine. Et à la vue du recrutement, même si tu as perdu Roglic, en récupérant Kian, bon, bah, sur le papier, ça reste encore l'équipe à battre et une équipe monstrueuse.
Tiens, il y a une petite question d'Houdini que Théo va pouvoir peut-être répondre. Il demande, le tracé du Tour est idéal pour qui ? Je sais qu'on en a parlé beaucoup, mais maintenant qu'on connaît un petit peu les tenants et les aboutissants, de savoir que les têtes qui seront présentes, les têtes d'affiche en tout cas, le tracé pour toi, il est idéal plus pour qui ?
Je pense que c'est même pas une question de tracé, c'est tout simplement si Vingegaard est au niveau de l'année dernière, qu'importe le tracé, vous avez beau mettre n'importe quoi, il sera quand même plus fort que les autres. Et la vérité, c'est que s'il est à son niveau du contre-la-montre de Combloux, le contre-la-montre de Monaco, il va faire encore plus d'écart. Donc... Tracé, je suis pas sûr que ce soit une dimension. En revanche, là où il y a une petite différence avec l'année dernière, c'est qu'on a déjà quasiment les ossatures des grosses teams du Tour, et à la fois la Bora et à la fois UAE. Je sais pas si vous avez vu la composition du UAE, mais UAE, ils mettent tout le monde.
Ouais,
c'est-à-dire Ayuso et Almeida, on y va sur le Tour. Vous encadrez ça avec les habituels. Bora, ils vont mettre Vlasov et Hindley également avec Roglic. Donc, on a pris le parti, ça veut dire qu'on met les armadas. En tout cas, on ne joue pas perdant, visiblement, dans le camp des autres équipes. On ne se dit pas, bon, bah, on va les laisser les deux se battre sur le Tour, et puis nous, on va tenter d'aller faire un podium sur le Giro. Ce n'est pas la priorité pour l'instant des autres équipes. On va voir si ça va peut-être changer, hein, en fonction de ce qui va se passer dans l'année. Mais la légère différence par rapport à 2023, c'est qu'on aura peut-être plus de chances de voir du combat avec les autres équipes.
Tiens, un fricadelle dans
d'accord le... Avec toi, Théo. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi et un peu moins avec Rémi pour le coup. Mais cette année, si je suis leader d'un classement général, si je suis prétendant pour le Tour de France, tu me fais choisir mon équipe, cette année, je ne suis pas sûr de prendre Jumbo. Parce que certes, il reste 7 classes, mais tu n'as plus Roglic et surtout, tu n'as plus Wout. Et Wout, c'est un peu l'homme à tout faire, le capitaine. Tu le retrouves sur la plaine, potentiellement... assez loin en montagne, mais le problème pour moi qui va se poser pour UAE, c'est pas la garde rapprochée, parce que Théo l'a dit, elle est exceptionnelle. Tu vas rajouter Adam Yates qui a fait 3 du Tour l'année dernière, c'est quand même du haut niveau. Le problème pour moi, c'est que celui qui est censé battre Vingegaard, il sera sorti du Giro. Et ça, pour moi, ça le condamne presque à jouer les seconds rôles.
Pas si tu arrives à garder tes 4 leaders dans le top 10 avant la dernière semaine, et là tu peux faire des choses.
Bon, en tout cas, Fricadel est d'accord avec toi, Jérémy, et notamment avec l'absence de Van Aert qui pourrait être préjudiciable pour toute la Jumbo, parce que c'est vrai qu'il colmatait pas mal les brèches. Mais on va quand même avancer, parce que on va bifurquer du Tour de France jusqu'au Giro, parce que Théo en parlait, un Giro plus animé avec un parcours qui est, on va dire, classique, j'ai envie de dire. Comment on peut faire pour animer tout ça ? Il faut juste mettre Tadej Pogacar en plus et Van Aert, évidemment.
Pose la question à qui, là ?
À toi, Théo.
Ah, pardon. Non, moi, quand je parlais de Giro plus animé, je mettais un bémol en une nuance, c'est que je pense que Pogacar sera deux jambes au-dessus de tout le monde, même s'il est à 90%. Et donc, moi, j'ai peur que ce soit justement pas animé, parce que s'il prend le pari de un peu l'assommer rapidement et ensuite de contrôler en vue du Tour, justement, pour pas se griller, ça peut amener un Giro où on se bat, en fait, pour la deuxième et la troisième place, rapidement, très rapidement.
Ouais, et ça serait un Giro un peu moins animé, à part s'il garde.
Et là, dans ce cas-là, clairement, c'est plus un Giro animé du tout.
À part s'il garde des forces pour le Tour de France, plein de points d'interrogation sur cette saison. Mais voilà, donc ce qu'on voulait dire sur les grands tours. On passe aux vraies courses, comme dit James dans le chat. On parle des classiques, Jérémy, et je te redonne la main avec donc les classiques printanières animés. Là aussi, nous, on aime quand il y a du suspense, on aime quand il y a du spectacle. Bon, qu'est-ce que tu veux de mieux en 2024 par rapport à 2023 ? Des chutes en moins, c'est tout ? Puis après, le reste, c'est bon.
des chutes ou des crevaisons en moins, si on fait référence à Wout dans le carrefour de l'arbre. Mais globalement, on l'a déjà dit, hein, sur les bilans de fin de saison, on a vécu une campagne de classique assez exceptionnelle en termes de densité, en termes de suspense. Milan-San Remo, moi, je me suis régalé. Le Tour des Flandres, c'était probablement l'une des plus belles courses de la saison avec Glasgow. Et Paris-Roubaix, s'il n'y a pas cette crevaison de Van Aert, ça peut peut-être donner une édition d'anthologie. Donc oui, je veux au moins la même chose, avec peut-être un peu moins de malchance, un peu moins de duels qui tournent court. J'insiste sur Liège, parce que Liège, ça fait quand même quelques saisons que c'est le mauvais élève des monuments, et c'est peut-être la course la moins intéressante des cinq, alors même si on n'a pas eu toujours des Lombardies de haute volée. Ouais, non, moi je pense qu'on on peut tabler sur le même schéma que 2023, avec peut-être un brin plus de réussite. Je crois qu'on aura un grand Wout. Je pense qu'il sera en très grande condition. En tout cas, il s'est donné les moyens de briller sur les classiques en faisant un petit peu moins cet hiver. On en parlera tout à l'heure, mais je crois que Mathieu Van Der Poel, sur la lancée de ce qu'il nous a proposé en 2023, sera également dans le match. Et après, reste à savoir ce que feront les leaders du classement général des grands tours. Pardon. Je pense à Pogacar, je pense aussi à Evenepoel. Il y a un triplé peut-être à aller chercher sur Liège, mais vu que cette année, il vise le tour, est-ce qu'il pourra le faire? Plein de questions qu'on se pose, mais de 4 beaux monuments et puis des belles semi-classiques aussi, hein, parce que Grand Wevelgem, parce que Grand Prix O3, ce sont toujours des courses qu'on voit avec plaisir.
C'est vrai. Rémi, tiens, tu n'as pas pris la parole depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux rebondir sur les propos de Monseigneur Sakian dans le chat? En attendant, on dit ouais, on espère Mats Pedersen, on espère aussi Philipsen avec Van Der Poel sur Paris-Roubaix. On a pas mal de choses qui se disent, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de revoir ou de voir en 2024 par rapport aux classiques, hein, évidemment?
Par rapport au classique, non, bah, moi, j'ai pas grand chose à dire, hein, à rajouter de plus par rapport à Jérémy Sahakian, hein. C'est le bon élève, de toute façon, donc je vais copier sur lui. Non, comme lui et comme nous tous, je pense, on s'est régalé sur la plupart des classiques, que ce soit les monuments ou les autres. J'attends pas beaucoup plus, de cette année 2024, ouais. J'avais parlé de l'émergence de nouvelles têtes, donc ça rentre aussi dans ce cadre-là, mais en même temps, déjà en 2023, on a eu Benelli, exactement. Donc, bon, ça arrive déjà. C'est vrai que les classiques ont cette faculté à nous sortir des petites surprises sur une course ou sur une campagne sur quelques semaines. Donc, c'est assez cool. Non, j'attends pas beaucoup plus. Peut-être que juste, ça c'est le côté chauvin, qu'il y ait un Français qui puisse un petit peu plus jouer la victoire. Alors, on a eu la victoire de Godon l'année dernière sur la Flèche Brabançonne, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, bah, on espère encore une victoire française sur une. Puis évidemment, Christophe Laporte sur Grand Wevelgem. On espère maintenant avoir.
Madouin, c'est la Bretagne aussi, hein, qui a gagné le tour.
Ah, la Bretagne.
Allez, chez lui.
Ouais, j'attends que les Français soient un peu plus présents sur les grosses courses, sur les gros monuments, sur les grosses classiques. Mais bon, après, quand tu vois ce qu'il y a autour, c'est juste le côté chauvin, parce que c'est pas quelque chose que je sais facile, voire possible même actuellement.
Bah, on va rebondir avec l'un des trois points de Théo, et je vais lui donner la parole là-dessus, avec Madouas attendu en top forme sur les Flandriennes. Ça veut dire jouer les premiers rôles comme il l'a fait il y a 2 ans maintenant, c'est ça, c'est lui la carte maîtresse sur les prochaines années dans ce genre de classique.
Bah, faut pas oublier Laporte quand même, hein, qui est capable, ouais, sur Roubaix l'année dernière, qui a joué de malchance et qui, je pense, était capable d'aller très loin aussi dans cette course. Après, ce qu'il faut quand même avoir en tête sur les classiques avec du dénivelé style Tour des Flandres, il y avait quand même les 3 extraterrestres. Et derrière, il y avait quand même un gouffre. Et c'est là, même si on a bien profité de ces classiques-là, parce qu'il y avait l'affrontement entre Van Aert, Van Der Poel et Pogacar, le fait est que derrière, c'était compliqué. Donc moi, j'aimerais qu'on ait un petit peu réduit l'écart là, sur ce différentiel, quoi. Mais j'y crois pas.
Pedersen qui avait anticipé la grande bagarre, qui fait 3
ben oui.
Ouais. Ça nous avait quand même permis de vivre un Tour des Flandres plus animé que prévu, avec un peu plus que les 3. Mais c'est vrai que si on pouvait réduire un tout petit peu le gap par rapport aux extraterrestres, on serait tous gagnants.
Ouais, et moi, dans mes trois points, j'ai oublié de mettre moins de Belges dans le chat, plus de Français, parce que là, ça part sur du Arnaud Dely et qu'on sort et on veut plus parler.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Non, mais nos amis Belges qu'on accueillera dans les prochains podcasts, ne vous en faites pas, on donnera la parole au plat pays. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, dans mes trois points aussi, c'était un Français de retour dans le top 10 mondial. Alors, je n'ai pas vraiment de nom en tête. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider, mais quand je dis top 10 mondial, je ne dis pas dans les premiers rôles, mais Laporte, oui, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un leader en soi, comme il a quand même pas mal de monde dans son équipe. Je pense plutôt aux leaders d'autres équipes. Hein. Madouas, pourquoi pas pour la Groupama FDJ. Godu, bon, j'y crois un petit peu moins. Peut-être Romain Grégoire, s'il se révèle vraiment. Arnaud Desmarres qui regagne.
Top 10 de quoi, yo?
Top 10 mondial.
Top 10 général.
Ouais, en gros, un classement
ici. Parce que si tu prends... la spécialité de Laporte, qui est les classiques et pourquoi pas un petit peu les sprints, il est dans le top 10 mondial.
Bah, c'est un peu dans le classement UCI de voir un Français venir, un Julien Alaphilippe qui revient dans le top 5. Dans le top
10. C'est bon, je pense.
Ouais, Paris-Chenis, ça donne beaucoup de points aussi. Mais, oui. Mais voilà, c'est ça qui me manque. J'ai pas vraiment d'idée en tête sur.
Non, mais tu sais qu'un garçon comme Laporte, il peut pas marquer trop de points sur des classements généraux de grand tour, par exemple.
C'est vrai.
Et quand tu regardes les quatre qui trustent, le classement de 2023, c'est Pogacar, Evenepoel, de mémoire, Vingegaard et Roglic. Donc c'est sûr que
C'est pas mon problème.
C'est difficile. C'est-à-dire que soit il faut un mec qui gagne un grand tour, qui est sur le podium et qui gagne au moins une ou deux courses d'une semaine. Ça aujourd'hui on n'a pas un mec capable de ça, surtout face aux extraterrestres. Et sinon c'est Laporte qui va claquer une grosse classique, donc un monument, donc un ronde, un Paris-Roubaix ou et qui est solide tout le printemps.
J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que ça t'apporterait, à quoi ça rêverait d'avoir un Français dans les 10?
Ça veut dire
qu'est-ce que ça t'apporterait comme émotion? Parce qu'admettons, Romain Bardet, par exemple. Romain Bardet, selon les concurrents qui vont s'aligner sur le Giro, potentiellement, c'est pas impossible de l'imaginer dans les 3 ou dans les 5. Loin derrière Pogacar, mais si tout le monde va autour, il peut y avoir un spot. Derrière, on peut l'imaginer prendre des points sur des classiques, finir dans le top 10, dans le top 5, et à la fin de l'année, de ne pas être si loin que ça du top 10 mondial. Mais est-ce que ce serait aussi intense en termes d'émotion? Est-ce que ce serait aussi retentissant que de voir un Français gagner une grande classique, un Français enfin gagner un tour d'une semaine sur le World Tour? Tu sais, le top 10 de l'UCI, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un barème un peu arbitraire. Hein.
Ouais, c'était juste de revoir quelqu'un qui brille toute une saison. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus parce que d'habitude, Rémi, dans ses trois points, je crois qu'il y a 2 ans, c'était, je crois, un podium de grand tour pour un Français. Après, c'était une course par étape d'une semaine en World Tour. Et cette année, tu nous a pas fait la classique une manche de Coupe de France ou un truc comme ça. Il n'y a plus rien maintenant. C'est terminé.
Descend d'année en année.
Ah ouais, mais d'année en année. Alors,
bientôt, je vais vous dire, j'espère voir un Français au départ du Tour.
Mais vous réécouterez les anciens épisodes. Mais à chaque fois, il a baissé d'un cran. Là, maintenant, il a abandonné cette idée.
Déjà, j'ai plus dans le déni.
Très rapidement sur les JO, Théo, et après on passe au côté féminin avec Rémi et Jérémy. C'est quoi des JO réussis pour toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se passe bien? Ça veut dire que...
Non, c'est intrinsèquement du côté sportif. Hein.
Oui, donc...
Ce qui se passe bien, j'espère que ça se passera bien, oui. On verra. Mais on a eu l'intelligence de tracer un parcours qui est sexy sur le papier. Après, aux coursiers, aux coureurs, on sait que les JO, c'est pas facile. Hein. On n'est que 3-4 par équipe, justement, ça peut flinguer de partout. La partie en ligne est intéressante, la partie dans Paris est superbe. Moi, j'attends juste que ce soit le feu d'artifice, voilà, c'est tout.
Qu'on voit un Glasgow, en gros, sur les JO presque.
Ouais,
un Glasgow l'année dernière sur les JO, qui a un profil un peu similaire, on va dire. Je vous avoue que...
Ça fera des images de fou, on va pas se mentir. Hein. Faut quand même être fier de ce qu'est Paris, donc, ça peut être vraiment sympa si jamais il y a tout le monde.
Bon, et on termine avec les filles parce que on demande du côté de Jérémy de la concurrence pour SD Works. Alors trouve-moi une piste, trouve-moi une piste déjà de réflexion. On t'écoute.
Elles ont de la concurrence.
J'ai
deux espoirs. J'ai deux espoirs cette année. C'est la Canyon, parce que la Canyon, il y a une vraie concentration de talents et ils n'ont pas toujours couru à l'endroit. Mais Nivia Doma est quand même assez régulière sur les objectifs qu'elle cible et elle, en général, elle essaie de courir pour la gagne, quitte à tout perdre. Et il y a un vrai bloc collectif autour d'elle, avec notamment Ricarda Bohan-Van, qui a gagné une étape sur le Tour de France et qui sera certainement encore un cran au-dessus cette année. Il y a Chloé Daiguer qui sera à ses côtés et qui est revenue quasiment à son meilleur niveau. Il y a toujours Elise Chabet. Donc si la Canyon a envie de faire bouger les lignes et mettre un petit peu en difficulté les SD Works, pourquoi pas? Et puis, il y a la petite Gaia Realini qui avait fait l'impasse sur le Tour de France l'année dernière, qu'on a découvert sur l'UAE il y a quasiment un an jour pour jour, et qui, à mon avis, peut aussi prendre un peu de coffre si elle s'épaissit un petit peu. Il y a possibilité de mettre aussi le bazar dans le dispositif SD Works. Maintenant, sur les classiques, avec Vollering en leader sur les Ardennaises, avec Kopecky à ses côtés, Kopecky qui est devenu une extraterrestre aussi chez les dames, avec toujours Vibos. Alors moi, je veux bien, hein. Il y a Charlotte Cole, il y a Balsamo, même Consoni, mais Consoni, elle n'est pas encore au top non plus, on l'a vu sur les premières courses. À mon avis, sur les sprints, la domination n'est pas prête d'être chamboulée, mais j'espère ne pas revivre une saison à 850 victoires de SD Works. Voilà.
Et 1-2-3 sur les classements généraux, aussi sur certaines courses. Ok, on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé déjà. On va sauter aussi, on attaque pas, parce qu'on va pas se mentir que les courses en Espagne sont pas hyper attrayantes en ce moment. Bravo à Dylan Groenewegen, bravo à Matthews pour ses victoires là-bas. Bravo à Pierre Grosterra aussi, français.
La Real, elle est déjà au top, hein, parce que le sprint de
Le Véron. Ouais, bah, mais c'est ça qui est beau. Et ça, c'est l'année 2024 qui commence, c'est le cyclisme qu'on aime. Donc, on va passer sur tous ces événements et puis on va aller directement dans le sprint final qui s'appelle maintenant on va allumer la mèche. Voilà donc pour allumer la mèche en 2024. On va aller sur nos paris avec. On va commencer par la star de l'année, celle qui va nous pas nous surprendre parce qu'on la connaît déjà, mais celle qui va tout rafler cette saison. Jérémy.
Mathieu Van Der Poel.
Rémi.
Tadej Pogacar.
Théo.
Mathieu Van Der Poel, pardon.
Et pour moi, Tadej Pogacar, on en a que deux Pogacar, deux Van Der Poel. Alors, on va avoir deux camps différents. Pourquoi Van Der Poel? Tiens, Théo, pourquoi Van Der Poel plus qu'un autre coureur cette année?
Parce que je pense qu'il a passé encore un cap l'année dernière, que sa victoire au championnat du monde a marqué les esprits. Et vu sa domination là sur cet hiver, ça veut dire que il est en forme et je pense qu'il a des nouveaux objectifs cette année et la perspective des JO surtout, moi m'enchante vraiment d'aller de le voir là-bas.
Et Jérémy, comment faire mieux qu'en 2023 pour qui était déjà Mathieu Van Der Poel, qui a déjà été la star ou fait partie des stars de l'année 2023? C'est quoi? C'est les JO en plus? C'est ça? C'est ce qu'il peut rajouter en gros?
Est-ce qu'on lui demande de faire mieux qu'en 2023 pour être la star de la saison?
Ah non, mais il faut au moins aussi bien.
Ah bah, faut au moins aussi bien. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Théo. Je vais simplement compléter par plusieurs petits points. Je pense qu'il y a une bonne partie de la pression qui a été évacuée pour Mathieu Van Der Poel parce que les années passent. Il a déjà 29 ans. Ouais. Et on lui a souvent dit bon, le palmarès en cyclocross, c'est super, mais il va quand même falloir gagner des grosses courses. Bon, l'année dernière, je pense que le problème a été résolu. Maintenant, quoi qu'il advienne, Mathieu Van Der Poel fera partie des plus grosses stars de sa génération. Donc, il ne va pas venir à Milan-San Remo avec la peur en se disant « mince, encore une fois raté ». Il ne va pas venir sur Paris-Roubaix avec cette même crainte. Il va peut-être même laisser le leadership à Jasper Philipsen sur certaines courses. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué par Alpecin. Alors maintenant, comment faire au moins aussi bien? Déjà en gagnant à Tabor dans 2 semaines, qui semble acté, mais on a vu hier qu'il pouvait toujours y avoir des mésaventures. Un 6e titre de champion du monde de cyclocross, ça semble banal, mais ça ne l'est absolument pas. Ensuite, derrière, je veux croire, et je l'ai déjà dit, qu'il pousse jusqu'à Liège pour essayer de gagner un 4e monument différent. Ça le mettrait au niveau, pas en nombre de succès, mais au moins en nombre de monuments différents. Ça le mettrait au niveau d'un Philippe Gilbert. Et il faudrait, dans les années futures, changer un tout petit peu son style pour essayer d'aller gagner la Lombardie. Ce sera évidemment pas pour cette année. Et puis, Théo en a parlé, je pense qu'il y a les Jeux qui sont primordiaux dans la saison de Mathieu Van Der Poel. Alors, est-ce qu'il sera sur la route? Est-ce qu'il sera sur le VTT? Est-ce qu'il sera sur les deux? Je ne sais pas, mais il sera aux Jeux. Et il sera au jeu avec l'ambition d'aller chercher une médaille d'or. Alors, qu'est-ce qu'il fera pour préparer ces jeux? Est-ce qu'il ira sur le tour une semaine? Est-ce qu'il zappera le tour? Finalement, ça, c'est pas si important. Mais si à la fin de l'année, il a gagné Tabor, il a gagné une médaille au jeu, il a gagné Liège, et potentiellement il a réussi à accrocher aussi au passage une course flandrienne, parce qu'il ira sur le Ronde pour gagner, il ira sur Roubaix à minima pour accompagner Philipsen, bah, il aura déjà réussi sa saison, plus de trois lancements de sprint comme il sait bien le faire pour Philipsen. Voilà, on aura eu un Mathieu Van Der Poel au niveau de 2023.
Il y a une vraie interrogation sur Liège quand même, hein, Jérémy. Quand même,
Oui. Moi, c'est une envie qu'il a, mais est-ce que ce sera pour cette année? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il n'a pas encore communiqué le programme. Il avait dit qu'il le ferait à la fin du mois de janvier, justement parce qu'il est en train d'amorcer la réflexion. Mais s'il ne va pas à Liège, ça veut dire qu'il fera all-in sur San Remo, les Flandres et Roubaix comme l'année dernière. Et l'année dernière, il fait 1-2-1. Et je pense que même s'il y aura un grand wow-out, il sera pas loin de ce décompte-là à l'arrivée.
Ouais, donc encore un gros programme pour Mathieu Van Der Poel. De notre côté, avec Rémi, c'est Tadej Pogacar. Je vais juste prendre la main pour dire, moi, j'espère qu'il arrive à se rapprocher du doublé Giro Tour. Et se rapprocher, ça veut dire gagner le Giro. Ça, bon, sur le papier, c'est quand même bien parti. Et puis le Tour de France, bah voilà, être au niveau Tour de France, ça, c'est des choses qui ne sont plus faites depuis un petit moment. Mais c'est pour ça que je l'ai mis dans les stars et j'espère qu'il va s'y approcher. Rémi, toi, c'est pourquoi?
Alors déjà, comme toi, hein, le doublé Giro Tour, parce que s'il y a bien un mec aujourd'hui capable de le faire, c'est Tadej Pogacar.
Et Del Toro.
Comment?
Et Del Toro. Et
Isaac Del Toro. Ouais, Isaac Del Toro, il fera le triplé.
Oh bon, bah, ça sera l'année prochaine.
Je vois, aujourd'hui, je ne vois que lui pour le faire. Même Vingegaard, je ne le vois pas réussir ça, malgré son équipe, malgré son talent, malgré sa puissance en montagne. Donc Pogacar, je le vois capable de le faire. Je ne dis pas qu'il va le faire, évidemment. Mais bon, le Giro, vu le plateau qui a l'air de se mesurer à lui, je pense que c'est quelque chose qu'il peut envisager largement, hors mésaventure, évidemment. Et puis derrière, bah, à voir ce qu'il pourra faire sur le Tour, même s'il partira évidemment sans les faveurs des pronostics face à un Vingegaard qui n'aura bossé que pour le Tour, et même face à Evenepoel également. Mais à côté de ça, Tadej Pogacar, c'est avec Van Der Poel le meilleur coureur de monument actuellement. Et ce, quel que soit le monument, s'il ne tombe pas sur Liège l'année dernière, il est fort probable qu'il fasse au moins podium, si ce n'est le triplé sur les Ardennaises. On attend de voir s'il ira sur Paris-Roubaix. Évidemment, ça paraît peu probable à court terme, mais c'est quand même l'un des rares mecs qui peut gagner les cinq monuments. Donc le doublé Giro Tour, un monument cette année, ça me paraît clairement cohérent. Les JO, bah, le parcours il est difficile et Pogacar aime les courses longues, dures, comme le sont ces jeux. Donc il sera favori, il jouera la médaille d'or, il jouera le podium sur ces jeux. Donc, et puis aujourd'hui, bah, face à Van Der Poel, c'est peut-être le seul mec qui est capable de faire quelque chose. Donc ça va être un beau duel entre les deux. C'est difficile hein, de sortir aujourd'hui Van Der Poel-Pogacar, comme ça a été dur de l'année dernière de décerner un titre de meilleur coureur de la saison entre les deux. Voilà, c'est pareil. J'ai préféré choisir Pogacar pour le côté doublé Giro Tour potentiel. Mais ça ne se jouera à rien. Ils vont se mesurer, j'ai l'impression, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et on verra quel des deux sera le meilleur.
Alors, sont notifiés aussi dans le chat Henrik Maas qui fait le doublé Giro Tour aussi. Quintana dans les stars de l'année. C'est une phrase, vu tout ce qu'il a pris pendant un an, à mon avis, ça va être la star de l'année 2024. Voilà ce qu'on nous dit dans le chat. Mais sinon, c'est évidemment Poggi et Van Der Poel qui sont plébiscités. La surprise 2024, donc, Jérémy.
Van Empel,
donc pour Jérémy. Théo.
Moi, c'est Ben Tulette, transfuge chez Visma Liseberg, qui se met à chasser les classements généraux. Donc, je suis très curieux.
Et Rémi, qui a un blanc, donc je ne sais
pas. J'ai été incapable de trouver. J'ai eu beau chercher pendant au moins 2 minutes 45. Non, vraiment, j'ai personne qui est venu. En plus, moi, mes surprises, elles sont toujours foirées.
Ouais, c'est Jack Egg ou les trucs comme ça, on les connaît, hein, tes surprises.
Peut-être mieux que je m'abstienne, sur certaines.
Moi, j'ai mis du côté moins sérieux Marc Padoum, qui a signé chez Coratec. Non. Donc, pour moi, ça sera la surprise de cette année. Et Johan Essen, qui va enfin se montrer au plus haut niveau. Voilà donc pour mes surprises. Jérémy, bon, on ne va pas passer 6 ans sur chaque catégorie, mais Jérémy, juste pour Van Empel, c'est là où on est un peu plus curieux, parce que ça veut dire quoi la surprise chez les femmes? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on la connaît très bien dans la boue, mais sur la route, je suppose que c'est encore autre chose.
Déjà une saison complète sur la route, je pense que c'est l'ambition chez Visma. Elle est allée au stage avec l'ensemble de l'équipe en ce début d'année. Et j'ai l'impression que cette année, elle a quand même contrôlé ses efforts en cyclocross. Elle a su s'accorder des pauses. Là, elle est revenue pour Benidorm, mais avec l'ambition d'aller chercher un titre à Tabor. Je pense que derrière, elle coupera. On l'a très peu vue sur la route l'année dernière. On a aperçu quand même un certain potentiel. Et quand on voit ce qu'a réalisé Van Androy, quand on voit ce qu'est capable de faire Puck Peters sur une seule apparition sur l'Estrade Bianche, mais tu te dis que comme chez les garçons, c'est possible d'être à la fois dans les cadors au cyclocross et sur la route. Pour l'instant, Visma Lisebike n'est pas au niveau de l'équipe garçon, mais je sais qu'on va travailler chez Visma Lisebike pour essayer justement d'augmenter petit à petit la cadence et la qualité des entraînements pour en faire une structure encore plus professionnelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Moi, je me dis, pourquoi pas une Femme Van Empel sur le Tour de France, aux côtés de Marianne Vos, aux côtés de Riya Lemarcus, des coureuses d'expérience, des coureuses de qualité. Et il y a tout pour moi dans cette équipe pour progresser. Et si elle se consacre à 100% à la route, à mon avis, elle fera une grande saison.
Et concurrencer la Z-Works, on reste toujours
dans
sur...
Dans les commentaires, il y a Fricadel qui parle de Leo Heiter en surprise. Moi, j'arrête avec les haters. Hein. Ouais. Moi, je dis pas. Hein.
Non, mais la type
j'ai déjà donné.
La type te propose Morgado en surprise rester patriote.
Mais c'est très bien. Antonio.
Et
bien
sinon,
sûr,
je sur le net dis Jack Egg a fait top 10 sur le Tour Down Under. Donc, finalement, ça commence déjà très bien pour lui à surveiller.
Hein, j'ai 2 ans d'avance, en fait.
Morgado, parenthèse sur Morgado, j'ai cru lire qu'il avait fait forte impression sur les stages du AE. Il était le seul à pouvoir suivre Pogacar visiblement sur les sorties longues de plus de 5 ou 6 heures. C'est un gros, gros, gros espoir du cyclisme.
Enfin, on l'a bien vu sur le Down Under en tout cas.
Ouais.
Moins que Del Toro.
Attends, il a fait 18e sur la deuxième étape.
Hein. Ouais, non, mais c'est déjà un bordel. Chez UAE, ils ont déjà beaucoup d'espoir qui
toquent la porte. Il y a trop de monde.
Ah ouais, et on va falloir qu'on mette 12 coureurs. Ou alors, ils font une équipe de dévots en plus sur le Tour de France.
Du Portugal, hein, déjà.
Ouais, ça t'arrangerait bien. L'espoir 2024, donc Jérémy.
Alors Arnaud Delis, j'ai toujours espoir, mais c'est un peu triché parce que je pense qu'il va encore passer un gros cap. Sinon, j'ai pointé Noah de Groupama,
okay,
qui aura peut-être aussi l'occasion de se montrer un petit peu plus et qui est un bon petit sprinter.
Théo,
mais j'en ai pas.
Ah bah voilà, il y a
rien. J'ai pas eu le temps.
Mais on va t'en proposer. T'inquiète, dans le chat, on t'en proposera. Rémi, cette fois-ci, t'as réussi à mettre des noms.
Oui, bah, j'ai évidemment mis Del Toro en premier parce que, évidemment, comment ne pas le citer, bien sûr. Après, dans la lignée de ce que dit Jérém, il parle de Delis qui va certainement passer un cap. Moi, j'ai aussi envie de voir ce que va faire Oscar Onley.
Bah, tu l'as vu déjà.
Une première. Oui, mais j'ai envie de voir comment il va justement confirmer. Voilà, j'ai envie de voir ce qu'il va dire. Il n'a encore que 21 ans, donc, ou 20 ans même, je crois encore. Donc, c'est quand même encore très jeune et il a fait une saison 2023 plutôt solide, mais à voir maintenant avec un peu plus d'attente, avec un peu plus de kilomètres dans les jambes, ce que ça peut donner.
Alors moi, pareil, j'étais un petit peu dans le même genre que vous. J'ai mis Ayuso cette année parce que j'aimerais bien le voir, notamment sur le Tour de France, parce que même s'il y a Pogacar, il pourrait prendre le lead parce que le pépère slovène est fatigué. Mais sinon, j'ai mis Lamperti chez la Soudal. Vous savez très bien qu'ils ont l'habitude de sortir des sprinters de temps en temps. Il n'y a plus Jakobsen. Ça peut être lui qui enchaîne les succès chez eux. Il y a toujours quelqu'un qui sort du lot. De toute façon, on fait confiance à Patrick Lefebvre. Voilà donc pour les espoirs 2024. On va pas s'étaler, on le dit dans le chat. Donc, du Archie Ryan, du Darren Rafferty. Voilà donc Léo Bisio cette année pour les espoirs de l'année. Voilà pour les différentes notations dans le chat. Déception 2024, ça c'est mon préféré. Ça, déception 2024, parce que souvent on se plante. Jérémy, qui va être quel coureur va être la déception 2024?
Parmi les coureurs que tu as pointé, il y a Caleb Ewan. Pour moi, c'est de la triche. Hein,
oui, non, mais je l'enlève. Je t'inquiète, je choisis en fonction.
Voilà. Alors, j'ai choisi Vlasov, pas parce que je pense qu'il va passer à côté de sa saison, mais parce qu'il aura, à mon avis, assez peu d'opportunités de jouer sa carte.
Donc, Vlasov, continue. Prends juste comme ça, on va passer d'étape en étape. Mais Vlasov, ça veut dire qu'avec l'arrivée de Roglic, du coup, il va avoir moins de responsabilités. C'est pour ça que tu le vois en déception. Okay.
Exactement, je pense que le Vlasov qui joue sa carte sur les classements généraux, qui est capable de faire un top 5, s'approcher du top 3 sur un grand tour, ce ne sera pas pour cette année.
On dit Roglic dans le chat, tu vois, on prend le contre-pied avec, c'est sûr, Roglic avec des points d'interrogation avec sa nouvelle équipe, la Bora. Théo, c'est qui alors?
Moi, j'ai mis Matteo Jorgensen.
Ok.
parce que j'ai très peur du syndrome Kwiatkowski chez Ineos en le transformant en équipier à tout faire, même si hein, il m'a fait mentir l'année dernière puisqu'il allait chercher une belle victoire sur le tour. J'ai peur que Jorgensen devienne ce genre d'équipier bon à tout faire. J'aurais bien aimé le voir une saison de plus avec, avec les coups des franches, et je ne suis pas sûr qu'il les aura chez Visma Lease a Bike.
En effet, et on confirme dans le chat que ça va être dur aussi pour lui. Rémi.
Alors moi, j'en ai pointé deux. Tao, qui part se relancer chez Lidl Trek, qui fait d'ailleurs un gros recrutement, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et David Gaudu, parce que je ne vois pas ce qui peut changer, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir faire là. Soit il ne va pas sur le tour, parce que là, il y a beaucoup trop de monde et il change peut-être son fusil d'épaule. Soit je vois vraiment pas ce qu'il va aller faire sur ce Tour de France, et je sais pas ce que du coup ça va faire sur les grosses courses qu'il va pointer. Après, j'avais noté aussi, mais d'une autre manière, un Sepp Kuss. Alors je le mets pas vraiment parce
mais tout
que
le peloton aussi hein.
Moi...
hein, mais tout le peloton aussi hein, t'inquiète pas hein, tu
oui
tu
alors mettre... attends, j'ai aussi alors Carapaz, de toute façon tous sauf les Portugais, sauf Rui Costa. Non mais en fait je veux dire, Sepp Kuss, j'ai peur de la déception, parce que lui-même a dit qu'il se verrait bien tenter du coup à nouveau de gagner les courses par étapes, et notamment les grands tours, et j'ai peur que cette Vuelta ne soit qu'un one shot et un accident entre guillemets, et en même temps j'ai l'impression aussi il y a un certain nombre de suiveurs qui vont s'attendre à ce que Sepp Kuss confirme et vont être déçus de lui, et pour moi c'est pas vraiment le cas en fait. Pour moi, il n'y a pas besoin d'attendre plus de Sepp Kuss, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai mis, mais sans le mettre.
Bon, d'ailleurs, on te suit plutôt sur Tao, qui peut être une des déceptions de l'année. Pour ma part, j'ai mis... Donc, j'avais le choix entre plusieurs coureurs, comme vous l'avez dit. Je voulais mettre Bennett, mais j'ai presque envie de dire que c'est un peu trop facile, parce que ça sent quand même assez lourd la déception. Souvent, c'est les étrangers dans les équipes françaises. Mais je vais mettre Pidcock cette année, qui, je ne sais pas... On ne comprend pas trop quels sont ses objectifs. Il a voulu se mesurer au grand tour, finalement. Il ne sait plus trop. Est-ce qu'il va être dans les classiques et tout? J'ai l'impression qu'à force, on commence à perdre un petit peu Tom Pidcock, qui était attendu comme un énorme crack et qui a du mal à confirmer. En tout cas, même si bon, il a gagné d'autres trucs.
J'ai rien compris à sa saison de cyclocross. Ah. Il n'y a rien de A jusqu'à Z.
Il est dans l'ombre de tout le monde déjà. Après, bon, ça ne veut rien dire le cyclocross. On a vu Van Aert galérer aussi. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il se perd un peu. On ne sait plus où le caser, Tom Pidcock, même s'il a gagné de belles courses par les années précédentes.
Van Aert, même s'il n'a pas toujours été à 100%, il n'a jamais fait moins bien que 2 ou 3e. Tom Pidcock, il y a des jours, il a débranché sur des crosses où il n'y avait personne et il n'a pas fait top 10.
Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre. Les Français, donc le Français de 2024, on en a parlé un petit peu en préambule, de savoir qui va être la star, Jérémy.
J'ai envie de croire en Arnaud Démare, je n'ai pas forcément de certitude à ce niveau-là, mais je me dis que dans une nouvelle structure où il aura la possibilité de courir les courses qu'il souhaite courir, avec énormément de coureurs pour constituer le train, ça peut sourire.
Il y a un train de sprinter, de toute façon,
cher Kev. Oui, il y a un train de sprinter, il y a aussi un énorme wagon de sprinter, hein, parce qu'ils en ont 12 dans l'équipe, donc c'est sûr qu'après, il va falloir s'entendre. Démare aussi pour moi, hein, au passage, comme ça, on peut passer, mais j'ai foi aussi en Arnaud Démare, qui a montré déjà de belles choses sur les quelques mois qu'il a passé avec Arkea, et pourquoi pas le revoir au plus haut niveau, en tout cas se battre avec les meilleurs sprinters. Théo.
Moi, j'ai mis... les Français, les jeunes Français de la Soudal.
Ok.
Antoine Hubi et Paul Magnier. Je pense qu'ils ont le potentiel pour exister dès cette saison. Et d'une manière plus générale, je pense qu'on aura un vrai renouvellement cette année. Avec des Alexis Fort-Prost chez Intermarché, pourquoi pas. Il y aura le Tour de l'Avenir, effectivement. Mais je pense qu'ils sont capables d'aller jouer. On a de très bons jeunes Français qui font leur apparition là. Et je pense qu'ils sont capables de jouer des choses déjà intéressantes sur des courses de moindre niveau, certes, mais de se montrer d'ores et déjà.
Et on termine avec Rémi.
Moi, je ne suis pas original du tout, parce que moi, pour moi, ce sera Christophe Laporte. Alors, j'ai hésité avec un Romain Grégoire ou un Lenny Martinez, mais de ce qu'il a montré en 2023, et notamment cette première partie de saison où il va disputer avec le maillot de champion d'Europe, je pense que Laporte va encore les moyens de passer un cap et d'aller chercher justement une plus grosse classique que Ganvevelgem, qui est déjà extraordinaire, attention. Donc voilà, Christophe Laporte, valeur sûre.
Ouais, Samish dans le chat dit aussi valeur sûre. Christophe Laporte qui est aussi donné, Romain Grégoire évidemment. Dans les flops, on a noté aussi Nairo Quintana. On aime bien donner Nairo Quintana dans les flops tout à l'heure. Et la type dit Goat Terra avec Goat G-O-A-T pour le français de l'année 2024. Il a fait une deuxième place et on s'enflamme déjà. C'est un syndrome très français. Enfin, on termine gentiment avec l'équipe à suivre cette saison. Jérémy, qui tu vas suivre cette saison? Quelle équipe va flamber?
Lidl Trek,
pourquoi elle va flamber? Pourquoi?
Non, parce que ça roulait déjà très fort l'année dernière et que le recrutement a été très efficace. Rémi en a parlé, un nouveau leader avec Gegenhardt, Jonathan Milan pour les sprints et les confirmations attendues de Pedersen, de Stuyven. Pour moi, il y a un vrai bloc pour briller un petit peu partout.
Théo?
Moi, j'ai mis la DSM qui... pour le coup, à renouer avec un gros sprinter avec Jakobsen. Je suis curieux de voir comment ils vont s'adapter à lui. Et puis, cette petite curiosité du retour de Barguil avec l'ADER en plus, peut-être présumé de Bardet. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer dans cette équipe, en plus avec l'éclosion de Poul et de Only derrière. Bref, il y a de belles choses à faire. Puis j'aime bien leur maillot.
Ça aussi, ça compte. Rémi qui a mis la moitié des équipes, hein, encore une fois, du World Tour, il ne s'est pas embêté comme ça. Oui.
Alors choisis-en Arkea une. Je fais pas ordre alphabétique. Hein, Arkea pour Astana pour... La Lidl Trek, évidemment, pour les mêmes raisons que Jérémy. Et je mets quand même la Bora, encore une fois, tu as une équipe All-Star, vous savez très bien que j'adore la Bora. Et pour Roglic, en fait, parce que c'est l'année ou jamais, je rejoins Jérémy qui disait ça tout à l'heure. C'est l'année ou jamais, je pense, pour le Tour de France, parce que les années ne sont pas à son avantage. Et avec cette équipe-là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
Et pour finir, moi, la Groupama FDJ qui va devoir faire avec ses jeunes, sa jeune garde. Hein. On a vu Pity notamment du côté du Tour Down Under. Mais après, Pino démarre. Voilà, j'ai bien envie de voir ce que fait la Groupama FDJ. Et il pourrait y avoir des surprises cette année de leur côté. Voilà donc, c'est fait pour ce premier épisode de l'année 2024. Est-ce que le grand maître du quiz qui est en train de s'étirer là pour s'échauffer, est-ce que tu nous as préparé un quiz fantastique avec les trois fantastiques ici, hein?
Plusieurs choses sur le quiz. Ouais. J'ai fait un quiz aujourd'hui très simple, j'avoue, je ne me suis pas fléché, il n'y aura qu'un tour à élimination. Dans la mesure où je suis en train de plancher sur un quiz plus gros, Johan, je ne sais pas si on peut encore en parler, mais il y a un événement qui approche.
Oui.
Voilà. Et j'ai un quiz, qui est très très facile par rapport au Down Under. Je vais vous demander chacun votre tour de me citer un nom, soit d'un coureur qui a pris place dans le top 10 du Down Under chez les hommes au classement général, soit d'une coureuse qui a pris place dans le top 10 du classement général, pareil sur la même course. C'est-à-dire qu'il y a 20 noms, on va faire des tours, et dès qu'il y en a un qui me donne une mauvaise réponse, il est éliminé. On va commencer. Alors moi j'ai Johan, Rémi, Théo sur mon écran, donc on va faire dans cet ordre-là.
Attends Jérémy, le chat ne peut pas jouer, il faut que je le cache ou pas? Et comment ça se passe pour eux?
Bah ouais.
Non, le chat aujourd'hui ne peut pas jouer, okay. C'est la première de la saison, c'est pas un quiz qui a été beaucoup travaillé, on va pas se cacher, il y a que vous trois.
Ok,
ça très bien. Beaucoup de travail.
Je mets le jingle et après tu peux partir.
Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
C'est bon Jérémy, on commence. Donc c'est moi qui va devoir donner un premier...
Johan, Rémi, Théo, c'est l'ordre de mon écran.
Donc top 10 du classement général, hommes...
Chez les hommes ou chez les dames, tu choisis qui tu veux.
Eh ben ça, de toute façon ça va être assez simple parce que je vais donner le vainqueur Williams, donc déjà comme ça on est tranquille. Bon.
Rémi.
Del Toro.
C'est bon, troisième, Théo.
Narvaez.
Deuxième, on a le podium. Johan.
Je vais pas faire le fanfaron et je vais dire Julien Alaphilippe. On commence déjà très mal, l'année 2024, vous le dire. Je vais vite être éliminé.
Rémi. Oscar Only. Quatrième.
Paré-Peintre.
Huitième.
Ah, il a pas dit lequel. Non, je rigole.
Il nous manque le cinquième, le septième, le neuvième et le dixième chez les hommes. Et toutes les meufs.
Jack Egg.
Jack Egg, dixième.
Ouais, dans le chat. Non. Merci.
Putain. Yates. Simon.
Ben Yates, septième. Il nous manque le cinquième et le neuvième chez les hommes.
Oh, c'est-à-dire qu'il faut passer chez les filles derrière. Oh là.
Bart Lehmann, le militaire.
Bart Lehmann, cinquième. Bonne réponse. Il nous manque plus qu'un seul homme.
Je vais donner. Je n'ai pas regardé, alors je vais donner au hasard.
Il abandonne les mecs.
Et là, il va partir là, sur les
mecs. Au hasard, qui a fait dixième? Ashley Moonman.
Pas du tout.
Allez.
Johan Dritz éliminé. Alors éliminé, sauf si les deux autres perdent. Hein,
ouais, bah attends. Attends, on va aller voir maintenant. On va voir.
Rémi, c'est à toi.
Ah oui, pardon. Cécile Uttrup.
Cécile Uttrup, 9e.
Ah, mais en plus, j'ai regardé, mais je suis bête.
Non, mais moi, je ne sais pas, là.
Première balle de match pour Rémi. Hein.
Ah, la nana qui a mis le record, là. Gigante. Elle était dans les 10.
Mais c'est elle qui gagne, en plus.
Oh,
putain.
Rémi, je vous rappelle qu'il reste un homme.
Oui, bon.
C'est le quantième?
C'est le neuvième. Vous voulez un indice?
Non, je peux regarder le chat en attendant.
Non.
Il y a assez honteux.
Ah ouais, c'est honteux. Chez les dames, vous m'avez donné 2 sur 10. Voilà. Bon, c'est pas facile. Hein. Le top 10 des dames, il n'est pas facile. Il y a encore un ou deux noms trouvables, mais les autres, c'est pas facile.
Rémi, attends, le timer, rien, il est en train de bouffer la feuille.
Alors, je vais vous donner un indice. Bon, vous pouvez jouer les deux en même temps, c'est le premier qui va me dégainer. Je vais vous donner un indice sur un homme et un indice sur une dame. Ouais. Il y a un homme qui est australien et il y a une dame qui est une habituée du strike.
Qui quoi?
Hein? Qui est une habituée du strike dans le peloton.
Nicole Frayn.
Nicole Frayn. Victoire de Rémi Dos Santos.
Alors, dans le chat, on avait donné Spratt ou Brown. Est-ce que c'était bon?
Ouais. Alors, Brown, non, mais il y avait Amanda Spratt, il y avait Victorique Guillemont, la meilleure française qui fait sixième. Et chez les hommes, c'était Damien Howson, qui courait donc pour l'Australie. Qui est
mais quand tu disais que tu n'avais vraiment pas du tout travaillé le quiz, c'est vraiment, tu t'es pas fait chier, quoi.
Ah non, aujourd'hui déjà,
avec le recul, là, franchement.
Soyez heureux d'avoir un quiz, parce que vu la dose de travail que j'ai à côté pour préparer le grand quiz, je peux vous dire que ça va pas. Bon. Ça va pas donner.
Bah justement, voilà. Bravo à Rémi pour cette victoire. Je voulais finir avec ça. Il va y avoir des nouveautés cette année dans sa déraille. On aura des nouveaux arrivants, je l'ai dit en préambule, avec donc 2-3 personnes virées. non, je sais pas vrai.
Johan, il y a des personnes qui sont déjà virées seules.
Hein. Oui, il y a des gens que vous avez vus, qu'on voit, qu'on entend un petit peu moins. Et il y a aussi une surprise, parce que la semaine prochaine, on ne fera pas de podcast, puisqu'on aura le droit à une grosse surprise, qui n'est plus une surprise maintenant, avec un gros quiz, avec des personnalités du vélo. Vous allez voir, on vous a préparé tout ça, et on fera au mieux pour ne pas être ridicule. Enfin, Jérémy, moi, ça devrait aller, mais pour le reste des participants, on verra. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On essaiera de le mettre en direct sur Twitch aussi. Bon, après, la partie technique, vous savez, déjà qu'on est en retard, on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le savourer très prochainement. Je crois que j'ai tout dit, Jérémy. Il y a quelque chose à dire en plus, à part le fait que tu travailles beaucoup, que tu es fatigué. Ça va, sinon ? Il est en pleine forme. Merci donc à Jérémy, merci à Théo, merci à Rémi. Pas de pari aujourd'hui, évidemment, parce que les courses ne valent pas le coup. Et puis, on se retrouve très vite ensemble pour reparler vélo. Salut à tous!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.